Do something about it.
Oh, yes, I'm coming. Metamorfose. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Métamorphose est une émission qui veut rendre visibles les initiatives locales porteuses de transformation sociale. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Halima El-Bajnouni, avec qui nous avons re-signé pour une nouvelle année afin de vous parler chaque mois d'énergie populaire et citoyenne, d'initiatives locales, de créativité, d'inventivité, d'alternatives à Marseille, dans la région et au-delà. Alors voilà, le 29 août 2016, lors du Congrès géologique international tenu en Afrique du Sud, des experts de la géologie ont appelé à déclarer la fin de l'Holocène, l'ère géologique actuelle, et le début d'une nouvelle période marquée par l'action de l'homme. On devrait donc changer d'ère géologique, R-E-R-E, écrit avec accent grave, et pas R, A-I-R, ça on aimerait bien parfois, au moins pour en respirer une plus saine. Selon ces experts réunis en Afrique du Sud, l'Anthropocène aurait démarré il y a 200 ans avec l'invention de la machine à vapeur, à base de charbon, par Watt et le début de la révolution industrielle. Et puis, en 1901, le pétrole jaillit pour la première fois d'un puits creusé à Spindletop, au Texas. Cela ouvre des perspectives inimaginables, comme disaient certains à l'époque. Nous entrons dans l'ère du pétrole, qui devient fondamentale dans la vie des sociétés contemporaines. Une grande accélération se produit post-45, au milieu du XXe siècle, marquant l'exploitation massive et exponentielle des énergies fossiles, charbon et pétrole principalement. Ces énergies fossiles, qui après avoir brûlé, se transformant en vapeur d'eau et en CO2, ce CO2 qui réchauffe progressivement l'atmosphère et change la géologie de la Terre qui n'arrive plus à digérer cette masse de gaz à effet de serre. Ainsi, l'Anthropocène, c'est un nouvel âge provoqué par l'humain, devenu avec son mode de développement économique, politique et idéologique, une force géologique. Un changement d'ère géologique, ce n'est pas rien, et surtout en si peu de temps à l'échelle de notre planète. Pour le scientifique Christophe Bonneuil, auteur notamment de l'événement Anthropocène, il s'agirait d'une remise en question massive de notre modernité industrielle et de ses grands partages. Alors, on fait quoi face à ce passage à l'Anthropocène qui pourrait bien être le prochain défi de l'humanité et qui risquerait fort de conduire cette humanité au chaos à cause du changement climatique ? Face à ce défi, nous avons souhaité, dans notre émission Métamorphose, venir vous parler, en toute modestie, d'expériences locales qui proposent des alternatives aux énergies fossiles et fissiles à l'origine de ce changement climatique. Place aux énergies renouvelables et aux négawatts, vous savez, ceux qu'on ne consomme pas, car on les économise. Commençons par les énergies renouvelables aux économies d'énergie au recyclage. C'est pour cela qu'on a réuni aujourd'hui trois personnes en lien avec l'énergie sur notre territoire. Romain Hugart, d'Oléo Déclic, Virginie Gallon-Bévort d'Enercop PACA et Mélène Maupu de l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat. Merci à vous trois et bienvenue sur le plateau de Métamorphose sur Radio Grenouille. Nous allons commencer par parler d'Oléo Déclic et des huiles de friture recyclées avec notre invité Romain Garde, responsable administratif et commercial d'Oléo Déclic. Cette association Oléo Déclic, créée depuis 2012, qui recyclait les huiles usagées pour en faire un carburant, notamment pour les chaudières marchant au fioul des copropriétés. Qu'est-ce qui vous a poussé, Romain, à lancer ce projet de récupération des huiles de friture ?
Alors moi je suis arrivé sur le projet l'année dernière. C'est un projet qui a été initié par Alain Vigier. Donc le fait d'utiliser l'huile comme source d'énergie, c'est quelque chose de très très ancien. Hein. Souvent on l'a brûlé pour faire de la lumière, un petit peu de chaleur. L'idée lui est venue en 2011. Et Oléo Déclic est une association, donc c'est une structure de l'économie sociale et solidaire qui est basée à Marseille et qui œuvre pour la réduction de l'impact environnemental des activités humaines et donc très naturellement dans le champ de la collecte des huiles alimentaires usagées. La proposition d'Oléo Déclic, c'est de collecter au plus proche des huiles, de les valoriser de façon très sobre énergétiquement et au niveau des intrants, et d'en faire un biocombustible. Il y a d'autres solutions, mais celle qui nous semble très pertinente aujourd'hui, vu son efficacité énergétique, c'est le biocombustible, à utiliser dans des chaudières anciennement au fioul ou au gaz, par exemple, qui peuvent être converties avec un brûleur adapté, et donc on peut se chauffer avec de l'huile de son territoire, en circuit court.
Mais en quoi se distingue Oléodéclic des grands groupes qui produisent du biodiesel, qui est utilisé après dans les carburants, je crois qu'il y a 10% même aujourd'hui dans les combustibles?
L'approche est radicalement différente. En fait, ça pose un petit peu la question de ce qu'on appelle aujourd'hui des solutions renouvelables, de la vision qu'on peut avoir de la transition énergétique. La filière actuelle aujourd'hui d'utilisation des huiles alimentaires usagées, c'est un procédé chimique qu'on appelle la transestérification, qui consiste à, en gros, précipiter la glycérine de l'huile pour en tirer les esters de méthyle et d'ajouter ça au diesel. Ça rentre en fait dans le champ de ce qui a été appelé les biocarburants, qui sont en fait des carburants, donc ça peut être de l'essence ou du diesel, auxquels on va ajouter une part infime. Dans le cas du diesel où on ajoute des huiles, c'est à hauteur de 7%. Mais dans ces 7%, 80% de ces 7% sont des huiles végétales pures, donc des huiles qu'on pourrait manger, du colza français, du tournesol français, et 80% de palme indonésienne. Voilà. Avec énormément d'énergie grise, puisque les usines de transestérification, aujourd'hui la plus proche de Marseille est à Barcelone. Donc concrètement, si on fait partir nos huiles, ça veut dire qu'elle part être transestérifiée à Barcelone, qu'ensuite elle est retransportée pour aller dans une usine qui va pouvoir produire du diesel, et qu'ensuite ce diesel va être retransporté pour qu'on aille le chercher finalement dans une station-service avec son petit moteur thermique qui va valoriser le carburant avec une efficacité énergétique de 30%.
Ouais, 30%, c'est le cycle de Carnot, en fait. C'est
ça.
Le rendement du cycle de Carnot qu'on ne peut pas bouger. Et du coup, vous, avec vos chaudières, en fait, vous arrivez à faire des rendements supérieurs, je crois,
Oui, naturellement. Alors, ce n'est pas le fait que ça soit de l'huile, mais en fait, la combustion d'une chaudière avec un brûleur, mais c'est valable pour le fioul ou pour le gaz, en fait, on tire, dans le cas de l'huile, 85% en fait, d'efficacité énergétique. Donc, voilà.
Et comment vous faites? Vous avez retravaillé le cycle de Carnot? Vous avez réinventé un nouveau cycle thermodynamique?
Non, pas du tout. C'est la différence entre l'usage carburant et l'usage combustible. Mais on pourrait faire mieux, on y travaille, mais c'est une des pistes de diversification. On a essayé
la cogénération, non, ou ce genre de choses.
Ouais, la cogénération, c'est vraiment la piste qui nous intéresse le plus. On peut aller jusqu'à une efficacité énergétique de 98%. La cogénération, pour faire simple, c'est un moteur fixe, donc c'est un groupe électrogène, tout le monde connaît ça, donc un carburant qui va produire du coup de l'électricité. Et en fait, le groupe électrogène ou le moteur fixe crée de la chaleur, et cette chaleur peut être récupérée, on appelle ça la chaleur fatale, et cette énergie peut servir à chauffer en fait un bâtiment. Et là, du coup, on a une efficacité assez stratosphérique, enfin, qui n'est pas à 100%, mais qui est à 98%, ce qui est encore mieux que le combustible. Et si on fait ça en local, du coup, on évite beaucoup d'énergie grise et de transport. Et voilà, donc la démarche, la différence par rapport aux grands groupes, elle est là.
Et par rapport à ceux qui disent, enfin, qui veulent toujours creuser plus profond pour extraire les énergies fossiles, et les lignes rouges qu'on doit pas franchir au niveau de la proportion de CO2 dans l'atmosphère, vous, avec Oléodéclic, vous continuez quand même à brûler, en fait, des énergies fossiles. Ou est-ce que c'est pas un peu contradictoire, justement, avec les réductions de CO2 dans l'atmosphère?
Alors, stricto sensu, c'est pas une énergie fossile, puisque c'est... Enfin bon, c'est une... on parle, en fait, d'un déchet. On est sur une valorisation d'une huile qu'on consomme. Donc, effectivement, on pourra demain se chauffer au soleil, et ça sera très... très important, très utile et beaucoup plus écologique que le fait de brûler de l'huile. Mais en tout cas, l'huile usagée restera dans nos sociétés, et la meilleure façon pour nous de la réemployer, de la valoriser, c'est en circuit court, comme un commun, Oléo Déclic considère que les déchets, que ce soit des huiles ou autres, sont des communs. C'est pour ça qu'on a une approche très basée sur des approches de territoire et en circuit court, sur des volumes particuliers dont on pourra parler. Voilà, donc effectivement, ça sera toujours moins vertueux qu'une énergie aussi propre que le vent et le soleil, mais se doit de valoriser ces huiles.
Ça reste un déchet dont il faut s'occuper. Oui. Et du coup, quels sont les partenariats que vous tissez avec les collectivités locales ou avec, j'ai entendu dire aussi que vous aviez des liens avec les écoles d'ingénieurs de Marseille?
Oui, on a travaillé effectivement avec l'école centrale de Marseille. Quand au début de l'éodéclic, il a été mené une étude de faisabilité en fait sur le fait de monter, de recycler en local et de monter une station de valorisation basée à Marseille. Voilà, et ça a été fait en partenariat avec l'école centrale de Marseille et le GRS. Plus largement, en fait, on est aidé par les collectivités locales. L'activité de l'éodéclic ne se réduit pas qu'à la collecte et à la valorisation des huiles. On a un travail très important de plaidoyer qui est fait. Si vous voulez, c'est une filière qui est naissante et l'huile est considérée encore aujourd'hui comme un déchet. Ça va bientôt changer. En fait, on a fait une démarche de sortie de statut de déchet, qui est une démarche assez longue, qui nous a pris plus de 2 ans et demi, menée avec le ministère. Et le but est de faire rentrer, si vous voulez, l'huile recyclée dans le bouquet des énergies renouvelables. Et donc pour ça, elle doit sortir du statut de déchet. Et ça permettra de brûler les huiles dans des chaudières d'une puissance supérieure à 100 kW, ce qui est interdit aujourd'hui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, techniquement, c'est compliqué de se chauffer à l'huile, c'est qu'en dessous de 100 kW, la viscosité de l'huile et le fait qu'il n'y ait pas de brûleur adapté à l'huile fait qu'il y a des phénomènes d'encrassement qui rendent l'usage contraignant et pas compétitif économiquement. Par contre, quand ce verrou va être levé, donc la loi va évoluer, on pourra utiliser les huiles et on travaille également avec une société qui développe un brûleur adapté qui permettra d'avoir très très peu de maintenance. Et au niveau des partenariats, en fait, on travaille énormément avec les collectivités locales qui sont à la fois des partenaires historiques financiers, mais aussi dans l'accompagnement du projet. Et on souhaite les intégrer dans cette vision donc de ce triptyque de déchets, énergie, circuit court, avec une évolution vers une SIC, donc passer d'une association à une SIC, pour intégrer l'ensemble des parties prenantes dans ces projets de territoire. C'est pas simple en fait.
Le passage en SIC, ouais.
Bah on a bien vu effectivement que c'était complexe, qu'il y a une vision très classique, malgré certains effets d'annonce et certaines actions en fait dans la démarche de sortie de statut de déchet, que les autorités ont du mal à prendre en compte les projets de territoire, à s'y impliquer, à les cerner, à prendre en compte les circuits courts. Même s'ils sont effectivement traduits dans la loi, dans le code de l'environnement, l'article 541.1 explique qu'il faut organiser le transport des déchets et limiter en distance, en volume, selon un principe de proximité. C'est pas du tout ce qui est appliqué aujourd'hui sur les huiles alimentaires usagées.
D'accord, il y a tout un travail à faire aussi, pédagogique, je dirais, de lobbying auprès des collectivités. Bah, merci beaucoup Romain, et puis n'hésitez pas à venir rencontrer Oléo Déclic samedi prochain, le 8 octobre, sur le cours Julien, à l'occasion de Fête de l'énergie, dont on va parler tout à l'heure. Voilà.
Merci Pascal.
Maintenant, une petite pause, une petite surprise.
C'est l'histoire de deux enterrements. Voilà deux enterrements qui tombent nez à nez, face à face. Le premier, c'est un enterrement très important C'est l'enterrement du roi du pétrole, le patron de Total, mort accidentellement. Hommage de la nation unanime, hommage de tous les médias, hommage de la terre entière, un hommage vibrant. Le deuxième enterrement, c'est celui de Rémi. Rémi Fraisse, 21 ans, tué par une grenade offensive tirée par un gendarme dans une manif contre le barrage de Sivens. Hommage beaucoup moins vibrant. Le Premier ministre parle de casseurs, on parle de bavures. On dit que si l'on veut mourir pour des idées, il faut assumer. À l'enterrement du patron de Total, le roi du pétrole, on l'a peu souligné. Il y avait des oiseaux endeuillés, des mouettes, des goélands, tout en noir. Le noir de la marée noire, le noir de l'Erika, le naufrage pour lequel Total a été condamné. C'était des oiseaux du parti des oiseaux, le parti de Rémi. Le parti des djihadistes verts. Rémi Fraisse est un djihadiste vert. C'est l'expression de Xavier Belin de la FNSEA. Passer le respect à l'égard des morts. Les deux figures en quelques jours sont devenues les symboles de notre présent. Deux symboles inconciliables. Il faut choisir son camp. L'assassinat ou l'accident. L'oligarchie a choisi, le gouvernement a choisi, le cynisme, la violence, le mépris et tout ce qui dégoûte et qui fait gonfler les rangs de la marine. Alors choisis ton camp, camarade. Le vent se lève, il n'y a pas d'arrangement. Cours, camarade. Les oiseaux noirs, en mourant, te regardent. Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi.
Mesdames et messieurs, avec nous, Daniel Mermet. Merci beaucoup.
Et donc, c'était Daniel Mermet avec un texte à chaud sur la musique des Ogres de Barbac. Un gros clin d'œil, comme vous l'avez entendu. Vous êtes bien sur Métamorphose, sur Radio Grenouille. Et à présent, je passe la main à Alima et Virginie pour nous parler d'énergie renouvelable avec de l'électricité d'origine à 100% renouvelable.
Métamorphose. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Vous êtes chargée de communication à Enercop PACA. Enercop PACA, c'est une coopérative locale qui met en lien les producteurs d'énergie renouvelable et les consommateurs. Et consommateurs qui deviennent sociétaires de la coopérative. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Donc Enercop est un fournisseur d'électricité 100% renouvelable et coopératif qui a été créé il y a 10 ans à l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence. Enercop a été fondée par des acteurs engagés comme Greenpeace, la Nef, Biocoop, les Amis de la Terre, etc. Et l'objectif, c'était donc de fournir une électricité 100% renouvelable aux particuliers ou aux professionnels. C'est-à-dire qu'Enercop garantit qu'il injecte dans le réseau l'équivalent de ce que consomment ses consommateurs, en 100% renouvelable, en s'approvisionnant en direct avec des producteurs. Et donc l'autre mot qu'on a prononcé, c'est coopératif, qui est très important pour nous aussi. C'est-à-dire que donc Enercop a un statut coopératif. En réalité, ce sont 10 coopératives aujourd'hui en France, à la fois la coopérative historique qui est basée à Paris et 9 autres qui sont implantées en région. Et donc nous sommes Enercop PACA, la coopérative régionale qui est basée à Marseille et qui existe depuis 3 ans.
Et quelles sont vos sources d'approvisionnement ?
Alors, donc on est sur du 100% renouvelable uniquement et on a 4 sources d'énergie. La première, c'est l'hydraulique, donc c'est l'électricité produite avec l'eau. Ensuite, l'éolien, le solaire et la biomasse. Et en fait, le fonctionnement, c'est qu'on s'approvisionne en direct auprès des producteurs. On en a 120 aujourd'hui en France et on en a une dizaine en PACA. Et on passe des contrats en direct avec eux et on leur achète l'électricité qu'on injecte dans le réseau, qui est un réseau électrique commun à tous les Français, quel que soit leur fournisseur. Et comme je disais, on injecte l'équivalent de ce qui est consommé par nos consommateurs, donc on est sur du 100%.
Un des freins en fait qu'on entend souvent des consommateurs à adhérer à Enercoop, enfin en tout cas à s'approvisionner auprès d'Enercoop, c'est le coût pour le consommateur. Et un des arguments qu'on oppose souvent, c'est que l'énergie nucléaire reste plus abordable que pour le consommateur que les énergies renouvelables. Qu'est-ce que vous répondez à cela ?
Alors oui, concrètement, aujourd'hui, Enercoop est encore un petit peu plus cher que le tarif réglementé d'EDF, de l'ordre de 15% aujourd'hui. Ce qui fait qu'effectivement, on est sur de l'achat responsable. Donc on a des consommateurs qui sont des gens qui sont prêts à payer entre 5 et 8 euros en plus par mois pour savoir d'où vient leur électricité, comment elle est produite et pour être sûr que leur argent va aux énergies renouvelables et contribue à la transition énergétique. Donc c'est de l'achat responsable. Après, ce qui est important de dire, c'est que c'est pas tant qu'on est plus cher, c'est que le tarif réglementé aujourd'hui n'est pas assez cher en France. La réalité, c'est ça, parce que il ne couvre pas les vrais coûts de production. Et en fait, chez Enercoop, depuis l'origine, on parle du vrai prix de l'énergie, parce qu'en fait, on pratique un prix qui a été réfléchi mûrement à partir du coût de production de nos producteurs et par rapport à nos coûts de fonctionnement. Et ce prix est stable depuis 10 ans. Enercoop n'a pas bougé sa grille tarifaire. C'est dire à quel point ce prix est pour nous un prix juste. Alors qu'à l'inverse, le tarif réglementé d'EDF a augmenté de 30% sur les 10 dernières années. Donc à l'origine, le tarif d'Enercoop était 40% plus cher. Aujourd'hui, on est 15% plus cher.
Donc, donc les tarifs tendent à se rejoindre.
Voilà,
en fait.
l'écart se réduit entre les deux. On est aujourd'hui encore un petit peu plus cher, mais on peut dire, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est voilà sur un vrai prix de l'énergie qui correspond vraiment à une réalité des coûts de production, ce qui n'est pas le cas du nucléaire, en fait. C'est pour ça qu'il y a cette augmentation aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, le mythe du nucléaire pas cher est en train de s'effondrer, que notre parc de centrales est vieillissant, qu'il faut le moderniser, qu'il y a les nouveaux réacteurs qui coûtent assez cher et à construire et qui sont même pas encore en fonctionnement, qu'il y a des nouvelles normes de sécurité qui sont nécessaires suite à des accidents comme Fukushima. Mmh. Et donc tout ça a fait exploser les coûts de production de l'électricité en France, qui est à 75% issu du nucléaire. Et donc l'idée que le nucléaire est une énergie peu chère a fait long feu. Mmh.
Surtout que les coûts de traitement après des déchets nucléaires sont énormes.
Ouais. Voilà, sans parler de... Donc là, en plus, on parle que des coûts, mais il y a aussi la question du risque, du danger,
évidemment,
et de la pollution qui est liée à ces déchets.
Mais alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour passer chez Enercoop ?
Alors c'est très simple, en fait, un changement de fournisseur, ça se fait en 10 minutes à peu près sur Internet, hein, sur notre site Internet. On n'a pas besoin de changer de compteur, on n'a pas besoin de faire des travaux concrètement à ce que pensent certaines personnes encore. Donc il suffit de prendre sa dernière facture d'électricité, un RIB et un relevé de son compteur, de se connecter sur Internet, sur enercoop.fr. Et voilà. Et ensuite, Enercoop s'occupe de tout, de résilier avec votre ancien fournisseur. Et en fait, il y a une vraie continuité. Vous n'avez pas de coupure en passant d'un fournisseur à l'autre.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des coûts de résiliation ? Quand on résilie son contrat, du coup, pour passer à...
Ça dépend des conditions que vous avez signées avec votre fournisseur. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux fournisseurs qui pratiquent l'engagement, qui vous obligent à vous engager sur une certaine durée et qui font donc des pénalités si vous les quittez avant. Il faut vérifier vos conditions.
D'accord. Très bien. Et alors, les consommateurs qui sont chez Enercoop sont encouragés, d'après ce que j'ai compris, à être eux-mêmes producteurs d'énergie renouvelable. Et il y a un exemple, par exemple, à Velo, un projet à côté d'Aix-en-Provence, Velo. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce projet à Velo ?
Oui. Alors, avant de dire ça, ce que je voudrais dire, c'est qu'Enercoop, en fait, a trois métiers. Son métier principal, c'est d'être fournisseur d'électricité. Mais un petit peu à l'image du scénario Négawatt, on a trois piliers. Le deuxième, c'est effectivement la production, le développement de projets de production. Et le troisième, c'est la réduction des consommations, la sobriété. Et donc, on travaille de plus en plus sur la question de la production, en effet, notamment à travers les coopératives régionales qui sont implantées en région. Et l'idée, c'est effectivement de faire bouger la filière en développant des projets de production. Et nous, ce qu'on souhaite développer, c'est des projets citoyens. donc dans laquelle les habitants et les collectivités locales s'impliquent. On travaille ça avec, en partenariat avec Énergie Partagée, qui est un fonds d'investissement qui permet de financer ces projets et qui les accompagne. Et donc à Velot, c'est en fait une centrale hydraulique qui était à l'arrêt depuis 3-4 ans parce que une pale était cassée, une pale de la turbine. Et en allant démarcher ce producteur pour lui acheter l'électricité, on s'est rendu compte que la centrale était à l'arrêt et on lui a proposé de l'aider en fait, parce que pour lui les investissements étaient trop lourds. Il ne voulait pas se lancer dans la réhabilitation, donc on a proposé de l'accompagner et donc on a initié ce projet. Et aujourd'hui il y a une société de projet qui a été lancée qui s'appelle Provence Énergie Citoyenne. On peut souscrire des parts de capital pour devenir financer le projet et devenir copropriétaire de la centrale. Et donc c'est notre premier projet citoyen hydraulique dans la région qui devrait voir le jour en 2017, fin 2017.
Alors Virginie, j'ai entendu parler du docteur Watt, hein, qui est la personne qui a permis l'invention de la machine à vapeur et qui a donné son nom à l'unité de puissance, le Watt. Est-ce que vous pouvez m'en parler du docteur Watt, s'il vous plaît?
Alors, Dr Watt arrive en PACA, effectivement. Dr Watt, c'est un programme de formation qui existe déjà dans d'autres régions et qui est porté par Enercop. L'idée, c'est d'accompagner les particuliers à réduire leur consommation parce qu'en effet, les énergies renouvelables, c'est bien, mais il faut aussi travailler sur la sobriété et sur la réduction de nos besoins. Et donc, Dr Watt sont des formations qu'on propose à partir du mois d'octobre dans toute la région. Les premières formations auront lieu à Marseille à partir du 12 octobre. Et donc, c'est un autodiagnostic qui est proposé aux personnes qui s'inscrivent. On leur prête du matériel pour qu'elles puissent faire des mesures chez elles, repérer où est-ce qu'il y a des gaspillages d'électricité et comment elles peuvent réduire leurs factures.
Mais merci beaucoup Virginie. J'invite les auditeurs à venir vous rencontrer sur le cours Julien le samedi 8 octobre ou toute la semaine à l'Équitable Café dans le cadre de Fête de l'énergie.
Merci.
Je passe maintenant la parole à Pascal qui reçoit Mélène Maupu de l'ALEC. Métamorphose.
Bonjour Mélène. Et Mélène, donc, tu fais partie de l'Agence locale pour l'énergie et le climat, dernière ALEC créée en France en 2012 à l'initiative de la communauté urbaine de Marseille, Marseille-Provence Métropole et de ses partenaires, notamment l'ONG, le GRS qui s'occupait depuis 2006 des espaces info-énergie. Donc c'est une agence quasi parapublique sous forme associative au service des particuliers, des professionnels et des collectivités locales. Ses missions sont de sensibiliser l'ensemble des acteurs du territoire, le grand public, les particuliers, les élus et de l'agglomération, principalement par de la formation. Sa deuxième mission, c'est d'accompagner des projets et des opérations à caractère novateur, et puis ensuite d'assurer une veille sur l'actualité énergétique et enfin favoriser l'échange d'expériences et de bonnes pratiques. Alors, Mélène, l'ADEME publiait il y a quelque temps ses visions, un rapport qui a fait beaucoup de bruit, puisque c'était une vision énergétique à l'horizon et climatique à l'horizon des années 2030-2050. Et ça montrait justement des voies possibles pour atteindre le facteur 4 en 2050, grâce à une division par deux de la consommation énergétique et un déploiement massif des énergies renouvelables. Est-ce que c'est faisable alors, Mélène, de passer au 100% renouvelable? Et c'est quoi ce facteur 4 en 2050?
Alors le facteur 4, c'est une idée assez simple, c'est on est pour atteindre les objectifs de réduction des consommations d'énergie, enfin d'émissions de CO2 au niveau mondial, chaque pays a une feuille de route. En France, la feuille de route, c'est diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre, diviser par 4 les consommations d'énergie à l'horizon 2050 et développer les énergies renouvelables. Alors on a entendu effectivement parler Virginie et Romain sur le développement de certaines énergies renouvelables. Ce facteur 4 ne sera atteint que si en parallèle du développement des énergies renouvelables, il y a un travail important sur la réduction des consommations. C'est vraiment important, c'est les deux piliers majeurs et indispensables d'une transition énergétique réussie. Alors l'objet de l'ALEC, c'est effectivement assurer la transition énergétique du territoire de Marseille et de la communauté urbaine, anciennement communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole. Notre premier axe d'intervention, ça va être de travailler sur le bâtiment. Donc en accompagnant en premier lieu les particuliers propriétaires de bâtiments, donc d'appartements, de maisons, dans la réduction de leur consommation d'énergie. Donc ça passe par des solutions assez simples, hein. Il n'y a rien de révolutionnaire, c'est travailler sur l'enveloppe du bâtiment. Ça va être travailler du coup sur l'isolation de la toiture, l'isolation des murs, l'isolation des fenêtres. Et rien qu'en agissant sur ces postes-là, on va à l'échelle nationale, on peut atteindre des économies d'énergie assez importantes, puisque le bâtiment, on sait qu'il est responsable de presque la moitié des consommations d'énergie en France. On dit souvent l'industrie, le transport, c'est des gros postes de consommation d'énergie. En fait non, le premier poste de consommation d'énergie, c'est vraiment le bâtiment, que ce soit le tertiaire ou le bâtiment d'habitation. Et la grande partie de ces consommations est due au chauffage. Donc en agissant sur l'enveloppe du bâtiment, donc sur une bonne qualité d'enveloppe, on va agir sur le chauffage en réduisant nos consommations, et ça va être, on va dire, l'étape préliminaire au développement des énergies renouvelables. Une fois qu'on aura réduit nos besoins, on pourra fournir ces besoins en énergie renouvelable. Mais si on commence à mettre, on va dire, des éoliennes ou du photovoltaïque sur notre maison qui fuit et qui perd de la chaleur dans tous les sens, l'efficacité, elle est pas au rendez-vous.
D'accord. Et d'ailleurs, à propos de maison, il y a un programme un petit peu pilote qui a été lancé à Marseille. C'est la fameuse rénovation du 3 fenêtres marseillais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et des économies qui ont été faites justement à cette occasion sur les factures?
Alors, en fait, on a effectivement on accompagne, on va dire, 1500 projets de rénovation par an, donc des particuliers. Une grande partie de ces particuliers vivent en appartement, puisqu'on sait qu'à Marseille et alentour, il y a quand même beaucoup de copropriétés. Un exemple concret, c'est l'accompagnement d'un 3 fenêtres marseillais, donc la construction typique de notre région, qu'on a accompagné dans son projet de rénovation. Donc on avait avant travaux une facture de 1940 euros qui était payée par les propriétaires de l'appartement. Après travaux, ils ont réussi, rien qu'en travaillant sur l'isolation des murs, l'isolation de la toiture et le remplacement des fenêtres, à réduire leur facture à 520 euros. Donc ça fait presque un quart. Mmh. Donc on est bien au facteur 4 en fait, en mettant en place des actions simples. Ce qui fait un gain de consommation effectivement de 70%. Le coût de ces travaux, c'était 255 euros par mètre carré, donc 23 000 euros de travaux une fois les aides déduites. Là où on les a accompagnés, c'est à la fois sur la définition du projet, c'est-à-dire que les propriétaires viennent nous voir en amont sans avoir une idée bien précise des travaux qu'ils vont réaliser. On va les conseiller sur les matériaux d'isolation qu'ils peuvent utiliser, les réglementations qui existent, du coup les épaisseurs d'isolant qu'il faut mettre, les types de vitrage qu'il faut mettre, etc. On va venir définir le projet ensemble et on va également les renseigner sur les aides qui vont exister pour faire ces travaux. Donc là, en l'occurrence, ils ont eu la chance, ces propriétaires, de bénéficier de pas mal d'aides, puisqu'il y a les aides de l'ANA, l'Agence Nationale de l'Habitat, qui vient aider jusqu'à 70% du montant des travaux. Donc c'est quand même très important. Il y a le crédit d'impôt, il y a les aides du conseil départemental, donc il y a beaucoup de choses qui existent. On va aider le ménage à défricher un peu tout ça. Ensuite, on va leur fournir une liste de professionnels donc de la région qui peuvent faire les travaux d'isolation, qui peuvent remplacer les fenêtres, etc. Et on va proposer un avis sur les devis que les particuliers ont reçus. Donc pour vérifier là encore que tout est bon en termes de critères techniques, en termes de TVA appliquée, etc. Que les assurances des entreprises sont bien en cours de validité. Et le propriétaire, du coup, on le laisse, une fois qu'on a vérifié toutes ces étapes, on le laisse faire ses travaux. Et parfois, on a la chance d'avoir effectivement des retours des propriétaires qui viennent nous dire on a cette année une facture de 100 euros pour le chauffage. Donc c'est quand même assez exceptionnel.
Et tout ça sur un simple coup de fil à la LEC. Et bon, après beaucoup de travaux, de relations, mais c'est parti d'un coup de fil à votre agence.
C'est parti d'un coup de fil. Le travail d'accompagnement, il est quand même assez long. Un projet de rénovation, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça met des mois, enfin des semaines, voire des mois. Et ce sur quoi on travaille aussi, c'est justement d'assurer le lien. Donc on a commencé à mettre en place des actions avec notamment la CAPEB, donc la Confédération de l'Artisanat, la Fédération Française du Bâtiment, pour justement pouvoir mettre en lien les particuliers porteurs de projets avec des entreprises compétentes, labellisées RGE notamment, ce qui est demandé par l'État pour avoir droit aux aides. Donc on a quelques listes qu'on commence à utiliser pour pouvoir mettre en relation les particuliers et les entreprises compétentes.
Et tout ça, c'est gratuit pour le particulier, en fait.
Et tout ça, c'est gratuit puisqu'on est une association, on est financé par les collectivités en totalité. Et on est suivi également par l'ADEME, donc qui s'assure qu'on donne un conseil gratuit, indépendant, puisqu'on ne fournit pas, on ne va pas favoriser une entreprise plutôt qu'un autre, un matériau plutôt qu'un autre. Donc tout ça, c'est gratuit effectivement pour le particulier.
Et qu'est-ce que vous faites au niveau des collectivités aussi à l'ALEC pour les collectivités de la métropole?
Alors l'objet de l'ALEC, c'est effectivement, il est assez large, hein, puisque assurer la transition énergétique du territoire, c'est pas une mince affaire, ça va être assez difficile. Donc on a effectivement cette action à destination des particuliers. En parallèle, on a des actions à destination des collectivités. Donc on a plusieurs collectivités qu'on accompagne sur le bilan énergétique de leur patrimoine, c'est-à-dire l'éclairage public, le bâtiment, donc les écoles, les salles des fêtes, les mairies, etc., etc. On va faire un bilan des consommations de tous ces équipements publics, aussi bien en termes d'énergie, donc gaz, électricité, et aussi bien sur les consommations d'eau. Donc on va, une fois qu'on a effectué ce bilan, proposer des pistes d'action à la commune. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, la commune, elle va effectuer des investissements uniquement si elle est sûre d'avoir une rentabilité sur un mandat ou sur deux mandats. Mais il y a déjà beaucoup de choses à faire sur la sobriété, donc sur le bon usage des équipements, sur couper le chauffage la nuit, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur déjà la sensibilisation et l'accompagnement des agents municipaux dans les bâtiments publics.
Merci beaucoup Mélène, et puis n'hésitez pas, je pense, à venir rencontrer l'ALEC, soit dans ses bureaux ou en tout cas sur le cours Julien la semaine prochaine, puisque vous pourrez à cette occasion découvrir, je crois c'est sous forme de jeu, l'atelier quoi. Merci, et puis de manière plus générale en fait, je vais passer la main à Lima qui avait des questions à poser à nos invités et auxquelles nous sollicitons votre avis, voilà.
Oui, alors Alessi Dallombria, essayiste et réalisateur marseillais, a réalisé en 2014 un documentaire, Le vent de la révolte. Ce documentaire nous fait découvrir les communautés indigènes dont la vie est totalement bouleversée à cause de l'industrialisation des parcs éoliens au Mexique, dans l'isthme de Tehuantepec. Cette industrialisation des parcs éoliens a pour conséquence de remettre en question des coutumes ancestrales garantes d'un équilibre au sein de la communauté indigène. Elle a pour conséquence de confisquer les terres agricoles qui jusque-là étaient des terres communes utilisées par tous, et en prime, ça crée des rivalités entre les membres de la communauté. J'ai donc effectivement quelques questions qui s'adressent à l'ensemble de nos invités. Est-ce qu'on risque de voir ce genre de situation se produire en France? Virginie?
Oui, nous on défend les énergies renouvelables, hein, mais pour autant on n'est pas des bisounours et on a conscience qu'il y a aussi un intérêt maintenant financier derrière ces projets qui peut inciter certains acteurs plus ou moins vertueux à se lancer dans ce domaine-là. Et donc il faut effectivement faire attention, être vigilant. En France, je pense qu'il y a quand même des normes très strictes pour l'implantation de l'éolien notamment. Il faut que ce soit validé par un préfet, ça met en général 6 à 8 ans pour que des éoliennes soient implantées, donc ça laisse le temps aux habitants d'être consultés, à des personnes de déposer des recours s'il y en a, enfin, donc voilà, c'est très long, et d'ailleurs il y a beaucoup de projets qui capotent du fait de l'opposition, d'opposition locale et de gens qui s'opposent au projet. Donc voilà, moi ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est qu'il faut faire attention aussi à ne pas décrédibiliser toute une filière parce qu'il y a quelques projets néfastes qui sont mal développés pour des mauvais intérêts. Il faut faire attention à ça, à ne pas saper en fait la confiance qu'on peut avoir en les énergies renouvelables. Nous, on pense que c'est une vraie solution au problème du changement climatique Et d'ailleurs, nous, on travaille surtout sur des projets citoyens avec Enercop.
Oui, justement, je pense que l'intérêt aussi, c'est peut-être de... parce que pour l'Okidam, en fait, il ne fait pas la différence. Quand on parle d'éolien, c'est de l'éolien. Alors, d'un côté, effectivement, il y a des avantages énormes à utiliser de l'éolien, mais de l'autre côté, on ne peut pas négliger non plus le fait que derrière, il y a aussi des grosses industries qui derrière... Donc, pour cet intérêt, un intérêt financier, et qui peut être au détriment d'autres intérêts locaux. Donc, pour l'Okidam, c'est important de pouvoir faire la différence, justement. Et vous venez de citer un terme qui est, à mon sens, important, qui est le fait que ce sont des projets qui sont des projets citoyens. Et de l'autre côté, on a des projets qui sont des projets industriels.
On a un très bel exemple en France avec le parc de Béghen, qui a été inauguré en 2014, qui a été un projet soutenu et financé par Énergie Partagée. Donc, c'est le premier parc éolien citoyen en France. Et donc, on voit que quand un projet peut être maîtrisé en partie par les habitants, les collectivités locales, parce qu'elles sont propriétaires aussi de cette installation, ça change tout, effectivement.
Est-ce que je vais peut-être demander à Mélène ou Romain, merci à Virginie, est-ce que vous avez entendu parler de ce projet contre lequel s'opposait l'association Robin des Bois? Donc c'était Jackie Bonnemain, porte-parole de l'association, qui s'opposait l'année dernière à un projet de parc éolien au large des côtes de Saint-Nazaire. C'est un projet qui était mené par EDF en partenariat avec Alstom. Et Jackie Bonnemain soulignait le risque d'industrialisation des mers avec une portée environnementale qui n'était pas suffisamment maîtrisée. Et par ailleurs, il y avait des pêcheurs qui s'inquiétaient de l'impact sur leur propre activité. Est-ce que vous avez entendu parler de ce conflit, en tout cas, et quelle est votre position sur ce genre de conflit, Mélène et Romain?
À vrai dire, non. Enfin, j'en ai entendu deux mots parce que je travaille avec une personne qui est de là-bas. Plus généralement, en fait, ce dont on se rend compte, c'est un peu ce sur quoi on a travaillé pour l'huile. Je pense qu'il faut se rappeler à vie que un mot revêt plusieurs aspects. Nous, par exemple, sur l'huile, tous les collecteurs aujourd'hui qui font de l'estérification, et que ce soit Total, Veolia, ou des filiales, se présentent comme une solution écologique. Voilà, parce que c'est vachement mieux que de balancer ça à l'égout, ce qui est vrai. En occultant en fait ce mot écologie, bio, énergie renouvelable peut être galvaudé et peut effectivement recouvrir des réalités diamétralement opposées.
Alors justement, j'ai vu un jour en passant devant la vitrine d'un McDo une dizaine d'ampoules allumées, et sur la vitrine il y avait écrit un truc du genre McDo fait des économies d'énergie, elle utilise des ampoules à basse consommation. Sauf qu'on était en plein jour et que toutes les ampoules étaient allumées. Et à un autre niveau, Élise Ducé titrait une de ses récentes émissions Cash Investigation, « Climat, le grand bluff des multinationales ». Alors, Mélène, tiens, qu'on n'a pas beaucoup entendu, comment faire le tri dans tout ça? Quels sont les indices pour savoir si on a affaire ou non à du bluff, à du greenwashing?
C'est difficile, c'est très difficile, il faut aller gratter, je pense, derrière. La première information, effectivement, qu'on a, c'est... ce projet, il est écologique et autoproclamé. C'est parfois un peu difficile de savoir ce qu'il y a derrière, en effet. Que ça soit un projet d'énergie renouvelable, que ça soit n'importe quoi, un produit bio, n'importe quoi aujourd'hui est, on va dire, fiché comme étant écologique, vert, durable. Donc je pense que ça devient un peu un argument de vente aujourd'hui. Un argument de vente d'énergie, un argument de vente de produits. Alors moi j'avais envie de dire quand même que quelle que soit l'énergie, alors si on revient sur le sujet qui est l'énergie, quelle que soit l'énergie et quelle que soit la manière de produire de l'énergie, ça a un coût environnemental, ça a un coût assez important. Donc les énergies renouvelables, ça c'est une solution durable, mais ça a un coût. Donc quelle que soit la manière dont on va produire l'énergie, on va avoir un impact sur l'environnement, on va avoir un impact sur les populations locales, qui est jamais négligeable. Ce que je trouve intéressant, en fait, c'est notamment la démarche qui est menée par, on l'a cité, enfin Virginie l'a cité, Énergie Partagée, qui se base sur pas mal de piliers en fait pour on va dire suivre les projets. C'est-à-dire que Énergie Partagée, c'est un fonds d'investissement et c'est une association. Mais le fonds d'investissement ne va s'engager sur le financement de projets d'énergie renouvelable que si ce projet respecte certains piliers que sont alors l'ancrage local. Ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que les énergies renouvelables qui sont historiquement portées par les industriels, donc avec un objectif de bénéfice, enfin, une entreprise privée doit faire du bénéfice, donc quels que soient les moyens, on va faire du bénéfice. Et c'est cette grande ligne historique est en train d'évoluer aujourd'hui puisque de plus en plus de projets en France deviennent des projets portés par des citoyens, par des collectivités. Et là, c'est vraiment une révolution. C'est-à-dire que moi, en tant qu'habitant d'un territoire, je vais pouvoir aller m'intéresser au projet qui est en train de se développer à côté, à Velo, à Bégane si j'habite en Bretagne ou autre part. Et je vais pouvoir contrôler ce qui se fait et apporter, on va dire, mon expérience ou pas, je vais pouvoir contrôler ce qui se fait. Donc on garde quand même une maîtrise du projet par les habitants et par les collectivités locales, ce qui est très important. Il y a aussi un des autres piliers de la charte d'énergie partagée, c'est la gouvernance ouverte. Donc c'est-à-dire que toutes les décisions, elles sont prises en collectivité. C'est pas, on va dire, le seul bénéfice qui validera ou non un projet. Le seul bénéfice financier.
Mais donc c'est maîtrisé par les usagers.
Exactement. Et un autre pilier qui est important, c'est l'exigence écologique. C'est-à-dire que Énergie Partagée ne va aider à financer un projet que si il y a une démarche environnementale derrière, notamment de réduction des consommations d'énergie, de réduction des impacts écologiques du projet. Alors, localement, il existe le schéma de cohérence territoriale qui est en gros une grande feuille de route sur tout ce qui est aménagement du territoire. Le schéma de cohérence territoriale qui a été créé par la communauté urbaine, sans vouloir faire leur pub, hein, mais c'était un des premiers qui a dit non, on ne fera pas de centrale photovoltaïque au sol sur des terres agricoles. Donc c'est... Je renvoie la balle au législateur, c'est quand même au territoire de mettre les garde-fous pour s'assurer que le développement des énergies renouvelables ne vienne pas au détriment des agriculteurs bien commun.
Évidemment. Merci Mélène et merci à tous.
Vous écoutez à Métamorphose avec les Roulouilles.
Merci à tous et merci à tous ces enfants aussi pour toutes ces précisions. Et à présent, je vous propose de parler de Fête le Climat, Fête comme faisons, organisée la semaine prochaine sur le cours Julien à Marseille.
Alors effectivement, pour prendre le temps de découvrir toutes ces initiatives, une semaine thématique a été organisée à Marseille par l'ALEC, Focus 21 et l'Équitable Café du 4 au 8 octobre. Mélène Maupu, en tant que co-organisateur de la semaine, pouvez-vous nous parler de ce qu'on va trouver dans cette semaine et quels seront les temps forts ?
Alors l'idée de la semaine, c'est effectivement une coproduction de différents acteurs locaux, aussi bien des acteurs culturels que des acteurs de l'énergie. L'objet de la fête de l'énergie, qui est un événement national, c'est de montrer les solutions locales d'une manière festive, sans se prendre la tête, en organisant des événements, des conférences, des projections de films, des concerts, des choses comme ça, des pièces de théâtre. Donc on s'est coordonné avec l'Équitable Café, avec Focus 21, pour travailler sur un programme assez varié. On va commencer en fait mardi 4 octobre à l'Équitable Café à 20h30 avec la projection du film Irin Zina, donc le cri de la génération climat qui a été produit par Focus 21, donc qui sera une première projection en exclusivité de ce film de 55 minutes sur le blocage notamment du sommet de Pau. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. À l'Équitable Café mardi soir. On continue le mercredi soir avec un atelier de fabrication de cuiseurs solaires, donc qui est organisé par l'Équitable Café de 15h à 22h. Donc on peut venir réaliser un cuiseur solaire soi-même, se rendre compte qu'on sait faire des choses de nos mains et qu'on sait utiliser les énergies renouvelables avec pas grand-chose. On continue le vendredi soir avec la projection d'une partie du film Demain, donc la partie consacrée à l'énergie et aux déchets, et un débat avec les différents acteurs présents. Donc il y aura Enercop, il y aura Oléo Déclic, il y aura l'ALEC, Et on pourra débattre en fait des solutions qui sont mises en œuvre aussi bien au niveau mondial qu'au niveau local sur la transition énergétique. Et on terminera avec le samedi 8 octobre à partir de 14h devant le Vidéodrome, donc sur le cours Julien, l'animation d'une conférence gesticulée par Philippe Massé. Donc pendant une heure, il nous fera une pièce de théâtre très rigolote, très sympa, sur justement la question de est-ce que c'est à nous, citoyens, de nous approprier les questions liées à l'énergie ou pas. Alors je vous laisse la surprise de la réponse. Et ça sera suivi donc d'un mini village des alternatives énergétiques avec des stands des différents acteurs locaux qui proposeront leurs solutions, qui proposeront des animations pédagogiques à tous les publics, qu'on ait un an ou 99 ans.
Merci Mélène. Alors Pascal, justement, Mélène nous parlait de ce film Erin Zina. Donc cette fois, avec ta casquette de réalisateur, est-ce que tu vas nous présenter ce documentaire, donc il nous a dit que c'était par rapport au sommet de Pau. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Mais surtout, avant de nous en dire plus, est-ce que tu peux juste nous dire d'où vient le nom Erin Zina?
Alors l'Erin Zina, c'est un appel que les bergers passent de colline en colline au Pays Basque. Et nous, on a repris ça en disant que c'était un cri à la fois de joie et un cri d'alerte. Et le sous-titre, c'est justement le cri de la génération climat. Et pendant un an et demi, en fait, on a suivi la naissance du mouvement Alternatiba, caméra au point, et notamment pendant cette action de désobéissance civile assez forte pendant 3 jours à Pau. Et c'est cette partie-là qu'on va présenter mardi, puisque toute la discussion qu'on a eue aujourd'hui, c'est quand même de se dire il faut arrêter de creuser, il faut arrêter de mettre du pétrole, enfin en tout cas du CO2 issu du pétrole et des carburants dans l'atmosphère. Et pour cela, il faut bloquer justement les pétroliers. C'est un peu la démarche qu'on va présenter. Alors c'est la partie un peu sportive du film, hein, mais je vous invite à venir la voir à l'Équitable mardi prochain. Mais c'est aujourd'hui, je pense que c'est une nécessité d'avancer sur les alternatives et en même temps de bloquer ce qui est en train de détruire notre planète et ou en tout cas notre humanité. Voilà.
Juste parce que j'ai compris que c'est 55 minutes qui seront projetées, mais que c'est une partie du documentaire, parce qu'en fait, finalement, combien de temps dure ce documentaire ou va durer ce documentaire et quels sont les autres sujets qui seront abordés?
Alors, c'est un documentaire qu'on a tourné à peu près 300 heures, donc c'est énorme, 50 jours de tournage, mais on va arriver à en faire 2 heures de film. Voilà, c'est l'objectif, c'est un peu fou. Mais on a envie de raconter cette histoire, on a envie de raconter justement toutes les alternatives, le Tour Alternatiba qui a été lancé, les villages, tout ce qui est aussi politique avec on a suivi la COP21 et toute la partie société civile là-dessus. Et enfin, on montrera aussi comment on peut agir en tant que citoyen sur des actions de désobéissance civile non violente. Voilà.
Ok, merci Pascal. Vous trouverez tous les détails sur le site de l'Équitable Café ou de l'ALEC. J'en profite quand même pour rappeler que la COP22 aura lieu cette année à Marrakech du 7 au 18 novembre et qu'à cette occasion, Marseille va accueillir l'Odyssée des Alternatives, qui est un bateau qui prévoit 6 escales de Marseille à Marrakech.
Voilà, l'émission se finit. Reste à vous donner quelques sites pour continuer à approfondir le sujet. Donc le site d'oléodéclic.org, le site d'enercoppaca.fr, paca.enercop.fr, et puis l'ALEC, l'ALEC métropole marseillaise.fr. Évidemment, vous trouverez le programme de la quinzaine, enfin la thématique sur le site de l'équitablecafé.org, le site du documentaire Erin Zina, le cri de la génération climat. Toutes ces informations, en fait, seront mises sur le site de Radio Grenouille, de notre émission Métamorphose. Et puis, une spéciale dédicace quand même à la mobilisation qui aura lieu la semaine prochaine, donc le samedi 8 et le dimanche 9 octobre, à Notre-Dame-des-Landes contre cet aéroport et son monde. Voilà. Et donc là-dessus, vous pouvez aussi rejoindre et vous informer sur le site zad.nadir.org. Je tiens maintenant à vous remercier tous les trois d'être venus participer à Métamorphose. Et puis merci à Jean-Baptiste à la technique de Radio Grenouille. Et cette émission donc a été coportée par l'association La Plateforme et Focus 21, Médias Citoyens, et a été préparée et animée par Halima El-Bajnouni et moi-même, Pascal Hennequin.
Je vous rappelle que vous trouverez tous les éléments bibliographiques sur le site de l'émission Radio Grenouille sur la page Métamorphose.
Et j'aimerais conclure et vous laisser méditer sur cette citation de Gandhi. La terre produit assez pour satisfaire les besoins de chacun, mais non pour satisfaire sa cupidité.